Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Dans le deuxième épisode de notre troisième saison, oui. On avait découvert une région bien étrange, Didier.
Effectivement, oui.
Et laissé le goulot,
ah oui, c'est vrai.
Le glouton dans sa taïga.
Oui.
Eh bien aujourd'hui, retour en Extrême-Orient russe. On n'a pas
d'accord.
fait le tour encore.
Oui,
hein.
C'est ça. Bah, c'est grand en même temps.
Et on n'avait pas encore rencontré les habitants.
Tout à
c'est
fait.
Ce qu'on va faire
d'accord.
aujourd'hui. Alors, on est encore en septembre, le mois de la rentrée des classes. Didier, tu vas nous raconter comment ça se passe en Chine et en Corée.
Oui. Alors, donc, d'abord, retour vers cette région russe. Alors, déjà, dis-nous, elle est administrée différemment, vu sa situation géographique. Enfin, il y a une politique spéciale là-bas. Comment ça se passe?
Non.
D'accord.
Oui, okay, d'abord, un petit rappel. Oui, je vais essayer. En tout cas, c'est un résumé, hein, parce que c'est... Assez complexe. Alors, l'Extrême-Orient russe est une vaste région stratégique. On le sait bien, on s'en doute.
Ça.
Mais qui représente environ un tiers, et ça j'insiste, du territoire de la Fédération de Russie. C'est
un
énorme.
Tiers. Ah oui, c'est
un
énorme.
Tiers.
C'est très grand.
C'est quand on parle de l'Extrême-Orient russe, c'est un tiers de la Fédération de Russie.
Et ça ne doit pas être là qu'il y a le tiers de la population.
Ben non,
j'imagine.
C'est très peu peuplé.
D'accord.
Pour ça, environ 8 millions d'habitants,
d'accord.
ce qui correspond à 1,2 habitants au kilomètre carré.
Ils peuvent s'ébattre.
Alors, pour vous donner une idée, chers auditrices et auditeurs, on est 106 par kilomètre carré en France.
Ah oui, d'accord, effectivement.
C'est 100 fois plus.
Mais non, tu veux bien nous dire, ça nous donne une idée.
Ça donne une idée. Mm-hmm. Alors, cette région est dirigée politiquement et administrativement selon l'organisation fédérale russe,
d'accord.
avec des particularités liées à son histoire. Et à des enjeux stratégiques particuliers. Ce n'est pas une entité unique au sens administratif, car on y retrouve plusieurs de ce qui est appelé sujets de la fédération.
D'accord.
Alors, il y a les kraïs, les oblasts, des républiques et des districts autonomes qui constituent depuis 2018 le district fédéral extrême-oriental.
Ouais.
Voilà, alors il y a les kraïs de Vladivostok,
d'accord.
de Khabarovsk, de Kamchatka, les oblasts de l'Amour, de Magadan, de Sakhaline. Ouais. C'est joli tous ces noms quand même.
Il y a des noms qui me disent
c'est
quelque chose.
C'est très poétique.
Oui,
on en entend parler.
Voilà, c'est ça.
Il y a des républiques, la Yakoutie et la Bouriatie,
d'accord.
et les districts autonomes, le Tchoukotka, Yevrisky, c'est un district autonome juif.
Oui, alors tu m'avais prévenu que c'était un peu compliqué, ça l'est.
C'est compliqué, faut s'y retrouver.
C'est ça.
T'as quatre sortes de sujets dans
d'accord.
cette fédération.
Okay. Bah alors, du coup, quelle différence entre tous ces termes-là? Parce que là, je ne suis pas très très au clair, j'avoue.
Voilà, bah, ça fait peut-être plaisir qu'il y ait des termes différents à la population qui habite ces endroits-là.
Sûrement, oui, sûrement.
Mais politiquement parlant, il n'y a pas de différence vraiment.
Ah d'accord, ok.
Mais ils ont des origines historiques diverses et sont administrés un petit peu différemment.
D'accord.
Un oblast, c'est littéralement une région, une province, et c'est la forme la plus répandue d'entité fédérée, majoritairement peuplée de Russes.
De Russes. Okay,
de Russes, bah, peut-être
oh,
aussi.
Le lapsus est révélateur.
C'est un gros lapsus, désolé. Voilà. Bon, c'est dans les oblasts, les Russes, majoritaires.
D'accord.
Et les kraïs sont les régions frontières situées aux confins de l'ancien empire russe, j'insiste.
Oui, bien sûr.
Alors aujourd'hui, un kraï n'est pas juridiquement différent d'un oblast, mais la domination a été conservée pour des raisons historiques et symboliques.
D'accord, ok.
Alors les districts autonomes ont été créés pour des régions avec une forte minorité ethnique autochtone et profiteraient, je le mets au conditionnel,
d'accord.
d'un degré théorique d'autonomie culturelle et administrative plus élevé du fait de leur langue et de leurs coutumes différentes des oblasts qui sont russes, bien sûr.
D'accord, ok.
Alors quant aux républiques, elles sont des entités fédérées créées pour les peuples non russes, ayant une identité ethnique, culturelle et historique forte, disposant d'une constitution propre, alors qu'un oblast ou un kraï n'a qu'une charte régionale.
D'accord.
Alors les républiques, chaque république a son chef et possède un parlement républicain qui adopte des lois locales.
Ah, tout de même.
Oui, mais ça c'est un peu en théorie.
Ah.
Elles ont donc une autonomie un peu plus large en matière culturelle que les kraïs ou les oblasts, mais ça doit s'arrêter là.
Ouais, okay.
Alors les Yakouts, hein, qui seraient d'origine turque, les Bouriates, qui sont proches culturellement des Mongols.
Okay.
Voilà, ça, ce sont donc les républiques.
Ouais, ça me situe un peu. Okay.
Mais alors, depuis les années 2000, hein, ces républiques ont un pouvoir fortement réduit avec souveraineté vraiment symbolique maintenant.
Ouais, okay.
Donc en résumé, je dirais que l'Extrême-Orient russe n'a pas de véritable autonomie, c'est un district fédéral dirigé par un représentant présidentiel qui influence la gouvernance locale.
Ouais.
Alors à noter qu'il existe un ministère dédié, un ministère russe du développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, qui est chargé d'attirer les investisseurs, de développer les infrastructures pour inciter la population, les entreprises à s'installer dans la région.
Ouais.
Et il faut retenir aussi que l'Extrême-Orient russe est fortement militarisé, avec de nombreuses bases militaires liées à la proximité de la Chine, des États-Unis par l'Alaska.
Et oui.
Et oui, c'est très proche.
Bien sûr.
Et de la Corée du Nord et du Japon.
Oui, oui, bien sûr, tout ça, c'est pas si loin quand on est vers
cet extrême-orient.
C'est même très proche.
Ok. Exactement.
D'accord. Alors, tu nous as dit qu'avec tous ces noms, on comprend bien que la population est plutôt diversifiée. Et comment cette partie du monde est devenue russe alors ?
Alors, avant la colonisation russe, au XVIIe siècle. C'était au XVIIe siècle
D'accord.
que les Russes sont arrivés. L'Extrême-Orient était peuplé seulement de peuples autochtones qui vivaient de chasse, de pêche, d'élevage de rennes et avaient des structures sociales tribales. Et ces populations entretenaient des relations culturelles et commerciales, surtout avec la Chine, la Corée et le Japon.
Oui.
Donc là, on est dans l'Extrême-Orient
Bien sûr.
Hein.
Bien sûr.
Et les peuples turco-mongols de Sibérie aussi. Et à partir du Moyen-Âge, certaines zones ont été brièvement contrôlées ou influencées par les Mongols aussi et les Chinois. Donc les Russes n'étaient pas du tout là.
Oui.
C'est seulement à partir du milieu du XVIIe siècle que les Cosaques, envoyés par le tsar, ont traversé la Sibérie pour installer des forts le long des rivières, ce qui a entraîné des conflits, surtout avec les Chinois, on s'en doute, qui étaient les souverains de la région du fleuve Amour. Mais avec le déclin de la dynastie Qing, la dernière dynastie, à la fin du 19e siècle, l'Empire russe va reprendre son expansion et récupérer la rive gauche de l'Amour et la région de Vladivostok, jusque-là.
Ça, Vladivostok, ça me fait toujours rêver.
Mais oui.
Sibérien, tout ça. Okay.
C'est vrai, on en parlera bientôt.
Ah ouais, j'aimerais bien ça. D'accord.
Et la conquête s'accompagnait bien sûr d'une russification progressive avec la construction d'infrastructures portuaires, de routes et des premières voies ferrées pour accompagner l'installation des colons russes, souvent des paysans pauvres. C'est-à-dire, on déplaçait les populations russes pauvres vers l'Extrême-Orient russe. Et c'est en 1916 que s'achèvera la construction du fameux train, le Transsibérien.
C'est ça.
Qui va relier Moscou à Vladivostok, un train qui va transformer profondément la région.
J'imagine bien.
Et le rêve du voyage, bien sûr.
Ah, c'est clair.
Alors, malgré tout ça, la région va rester sous-développée et marquée par des fortes tensions sociales.
Ah.
Et on est alors en 1917.
17, forcément.
Et c'est la fameuse révolution d'octobre.
Bien sûr.
Qui fera de cette partie du monde le bastion de la résistance blanche anticommuniste contre les rouges à l'ouest.
D'accord.
Et cette région a été soutenue par le Japon, les États-Unis et la France.
Ah aussi, d'accord.
Voilà, mais en 1922, l'armée rouge va reprendre le contrôle et l'Extrême-Orient russe sera donc intégré à l'URSS
d'accord.
en 1922.
Ok.
Voilà. Donc on va écouter Otiken, c'est la chanson s'appelle Phénoménon.
D'accord.
Et ça vient de l'Extrême-Orient russe.
Ah, clairement. voilà la petite découverte du jour pour nous emmener vers l'Extrême-Orient.
Oui, proche de la Mongolie, je dirais.
C'est ça.
Là,
on sent bien.
On sent un peu le chant diphonique.
Exactement, c'est ça.
On en parlera bientôt aussi du chant diphonique.
On va parler d'un tas de choses cette année.
Il y a tellement de choses à raconter.
Effectivement. Donc, du coup, si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu me dis 1922.
Oui.
C'est quand même Staline qui était au pouvoir.
Oui, oui, oui.
Et il a fait quoi de cette région, du coup, justement, Staline?
Sous Staline et pendant la guerre froide, l'Extrême-Orient va devenir une zone stratégique avec la construction de villes industrielles et la création de camps du goulag.
Oui, c'est vrai, bien sûr.
Voilà, pour exploiter les ressources naturelles.
Oui,
ils avaient trouvé la solution d'exploiter les ressources naturelles à faible coût.
Oui, c'est ça, avec une main-d'œuvre pas chère.
Une main-d'œuvre vraiment pas chère.
D'accord.
Et des dizaines de milliers de prisonniers y seront envoyés.
J'imagine.
Pour travailler dans des conditions terribles, le climat, on s'en souvient, est quand même particulièrement difficile.
Clairement.
Que ce soit par rapport à la chaleur l'été et le froid l'hiver.
Mmh.
Alors à cette époque, l'accès à la région était strictement contrôlé, même pour les citoyens soviétiques.
Ah oui.
La région était peuplée surtout de militaires et d'ouvriers recrutés dans toute l'URSS.
Mmh.
Puis beaucoup plus tard, il y a eu en 1991, beaucoup plus tard, la chute de l'URSS.
Eh oui.
Et ça va plonger la région dans une profonde crise jusqu'aux années 2000.
D'accord.
Quand la Russie va redécouvrir l'importance stratégique toujours de sa façade pacifique.
D'accord.
Et Poutine, ça y est, on y est, va lancer une politique de développement pour réattirer les colons.
D'accord, mais alors parle-nous justement de la population qu'on y trouve alors.
Alors la population de l'Extrême-Orient russe représente seulement 5%, même moins de 5% de la population.
Comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de monde.
Il n'y a pas beaucoup de monde et vit mais bien sûr majoritairement dans les quelques grandes villes situées près du Transsibérien et des côtes pacifiques.
D'accord, de toute façon, vu les conditions, forcément on peut comprendre.
Alors les populations autochtones ne sont qu'une petite minorité qui vivent principalement dans les zones rurales du nord et de l'est et souvent dans des conditions précaires, un peu comme toutes les populations autochtones, je dirais.
C'est ça, c'est souvent le drame.
Alors les Russes de l'ouest, notamment de l'Ukraine, sont venus peupler le pays et se sont mêlés aux autochtones, créant une population métissée allant du type slave au type asiatique et inuit.
D'accord.
Et oui, on est près de l'Arctique.
Ben oui,
et avec des caractéristiques physiques liées à des adaptations génétiques à la vie dans des conditions climatiques extrêmes. Voilà. Et il y a une grande disparité entre, d'un côté, les centres urbains dotés d'infrastructures structure moderne, avec de l'autre côté des zones rurales ou indigènes très marginalisées, où le niveau de vie est inférieur à la moyenne nationale.
D'accord, comment y vivent-ils alors ces gens?
L'accès à la santé et l'éducation est inégal,
on s'en doute. Hein. Bien sûr.
Ils ont un sentiment d'isolement et d'abandon par Moscou.
Je veux bien croire.
Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a 9 fuseaux horaires qui les séparent et qui les ont maintenus, contrairement à la Chine qui a un seul fuseau horaire.
Ah oui.
Alors les communautés autochtones subissent encore de nombreuses discriminations et voient leur mode de vie traditionnel, en danger.
Bien sûr.
Voilà. Alors le climat est extrême, avec des hivers qui peuvent atteindre
50.
Moins 50. Ouais. Et ça affecte tous les aspects de la vie quotidienne, comme le chauffage, l'alimentation, les transports, l'école, etc. Alors l'avion, c'est le seul moyen de se déplacer facilement.
Forcément.
Et concernant le logement et l'habitat, dans les grandes villes, on trouve des immeubles de type soviétique vieillissants, mais aussi de nouveaux ensembles résidentiels financés par des investisseurs asiatiques.
Ah, oui. D'accord.
Voilà, les habitations, elles sont souvent en bois, mal isolées.
Oui.
Beaucoup de villages vivent sans eau courante, avec un chauffage au charbon. Voilà. Et l'alimentation, ils mangent beaucoup de poissons, de fruits de mer, on s'en doute.
Mm-hmm.
On mange encore de la viande de renne, d'élan, de phoque là-bas.
Oui.
Et la majorité des produits de base, le pain, le lait, les fruits et les légumes sont importés depuis la Russie européenne.
Bien sûr.
Ils sont chers et souvent en pénurie.
D'accord. Alors, et sur le plan social et culturel, comment ça se passe ?
Alors, il y a des écoles et des universités dans les grandes villes, mais moins accessibles en campagne, on s'en doute aussi, où les écoles ferment par manque d'enfants ou de professeurs. Bon, l'accès aux soins est surtout est très difficile en hiver. Et bon, les grandes villes offrent quand même une vie culturelle vivante. Non, mais la télévision et Internet permettent à la population de garder un lien avec le très important avec le reste de la Russie. Mais la connexion peut être instable, on s'en doute aussi.
Oui, c'est ça.
Alors c'est pourquoi la famille et la communauté jouent un rôle central dans les zones rurales où la solidarité est indispensable.
Ah, dans ces climats-là, c'est indispensable. Donc j'imagine, ça va choquer personne, qu'actuellement les enjeux sont importants pour le gouvernement de Poutine.
Bien sûr, Didier, Poutine doit faire face, entre autres, à la démographie qui s'effondre.
Ah, aussi.
Et ça pose un problème de souveraineté sur des territoires immenses. Mm-hmm. S'il n'y a personne, ça peut attirer les autres.
Et c'est clair.
Et surtout qu'à côté, il y a un voisin qui est surpeuplé, Chine.
Il a besoin de place.
Voilà, la Chine n'est pas impérialiste, mais elle avait, si elle suit la logique russe, elle occupait le territoire avant, près du fleuve Amour. Okay. On peut imaginer...
Je vois ce que tu veux dire.
Peut-être qu'un jour, s'il n'y a plus personne dans les territoires de l'extrême-orient russe... Voilà. Enfin bon, je vais me faire peut-être...
Du moment que ça se passe pacifiquement, c'est tout ce qu'on demande.
Oui, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Okay. Bon, alors c'est pourquoi Poutine cherche à renforcer sa position par une présence militaire accrue, tout en se rapprochant, et ça, c'est là qu'il est très fort, il se rapproche diplomatiquement avec tous les pays asiatiques.
Bien sûr.
Et sur le plan économique, malgré son potentiel, la région reste sous-développée. Il faut la désenclaver, la moderniser, diversifier son économie. Mais actuellement, Poutine a d'autres chats fouettés.
Ah, clairement.
Avec l'Ukraine, particulièrement.
Bien sûr, malheureusement.
Voilà, on en sait un petit peu plus sur l'extrême-orient russe, Didier.
Ouais.
Alors, on va se faire une pause musicale chinoise cette fois. On va quitter l'extrême-orient russe pour la Chine.
Alors, allons en Chine.
兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜，我们不一样不一样，每个人都有
c'était super chanteur chinois.
Oui, c'est sympathique.
Oui, j'ai pas réussi encore à lire.
Oui, mais moi non plus, je te rassure, de toute façon.
Bon, c'était très bien, Didier,
mais
merci.
Oui, voilà.
Bon, alors, comment se passe la rentrée des classes en Asie, Didier? Enfin, en Chine et en Corée.
Oui, on va se concentrer sur la Chine et la Corée. Alors, la rentrée scolaire en Asie, c'est vraiment un moment symbolique et structurant dans la vie éducative. La rentrée n'est pas qu'un simple retour en classe, c'est un événement national qui reflète les valeurs culturelles, la discipline collective et les priorités éducatives propres à chaque pays. Et la Chine et la Corée sont souvent citées pour leurs performances scolaires dans les classements internationaux. La rentrée est donc organisée de façon très méthodique, avec des différences notables dans le calendrier et les rituels, avec des attentes différentes envers les élèves. Retenir que pour les deux pays, la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans.
Un an de moins qu'en France.
Oui, c'est
en fait.
Ça, c'est proche.
Hein, oui, voilà. C'est proche.
Donc
on commence par la Chine, Didier.
Exactement, la rentrée des classes en Chine se fait comme en France, début septembre pour le premier semestre qui va jusqu'en janvier. Période de vacances d'un mois pour le nouvel an lunaire, forcément. Oui. Et le deuxième trimestre démarre en février jusqu'à la fin juin, début des vacances d'été qui durent deux mois.
Donc c'est un peu comme chez nous.
Ouais, ça m'a surpris ça, mais voilà. S'ajoute à ça une autre semaine en octobre pour la fête nationale.
Ah, bien sûr.
Puis bah, des jours isolés comme le 1er mai, enfin soit au total environ.
Oui, la fête du travail, important.
Voilà, trois mois et demi par an quand même, du coup.
Ouais, c'est bien.
Je pensais à nos petits enfants français très favorisés, mais pas tant que ça finalement là. La rentrée, donc, elle est ritualisée, comme on l'a dit, pour commencer dans chaque établissement. Il y a une cérémonie officielle sur le terrain de sport avec un lever de drapeau accompagné de l'hymne national chinois.
On imagine bien ça.
Il y a bien sûr les discours, ceux des représentants locaux, celui du chef d'établissement. Enfin, vous imaginez un peu le cérémonial. Ce sont des discours sur la discipline, le respect, le travail et la réussite scolaire, madame.
Alors, quelles sont les particularités de l'organisation scolaire en Chine, Didier ? C'est quoi le point commun avec les deux pays, avec la Corée ?
Il y a un point commun avec les deux pays, c'est les élèves qui portent l'uniforme scolaire, sauf dans les jardins d'enfants, dans lesquels les enfants portent une tenue un peu standardisée, constituée d'un ensemble coloré, confortable et pratique, avec le logo de l'école, bien sûr. L'objectif des uniformes dans toutes les classes, et pour les deux pays, c'est de créer un sentiment d'unité et de simplifier la vie des parents.
Bah, c'est pas bête quand même, moi, je trouve.
Oui, ouais, bah, on y réfléchit, je crois.
On y réfléchit, oui, ça fait un petit moment
c'est
déjà.
C'est ça. Dès la primaire, les classes sont chargées, par contre, en de 30 à 50 élèves.
Oui, c'est beaucoup.
Ah, oui, je trouve aussi.
C'est peut-être un peu moins pour les petits.
Je sais pas, oui. C'est pourquoi, dès le premier jour de la rentrée, l'accent est mis sur la discipline, les règles de vie et l'importance du travail. Les journées d'école sont longues, elles commencent vers 8h et à 17h, elles se terminent en moyenne, et avec des devoirs à la maison.
Ah oui, quand même.
Ouais,
donc, ils ont beaucoup de vacances, mais ils travaillent plus.
Oui, c'est ça. Le sport, voilà.
Oui, est-ce qu'il a une grande place à l'école en Chine ?
Oui, à tous les niveaux de la scolarité en général. Trois séances d'éducation physique par semaine avec des exercices collectifs le matin.
Ah oui.
Des tests sportifs qui sont obligatoires et intégrés aux examens scolaires. Les élèves doués sont orientés très tôt vers les écoles spécifiques de sport pour, vous en doutez bien, former les champions olympiques de demain.
Et oui, c'est ça.
Il y a de la détection très
succès,
rapide. Je pense que ça aide, oui.
La recette pour le succès.
C'est ça.
Alors, quel est le parcours scolaire de la maternelle à l'université ? Est-ce que...
Alors, il est assez semblable au parcours scolaire du français. Les enfants sont accueillis en classe de maternelle de 3 à 6 ans, avec pour objectif la socialisation, l'initiation à la lecture, à l'écriture, la discipline collective.
Oui.
Et après, suit l'école primaire qui dure 6 ans. Un an de plus qu'en France, et met l'accent sur l'apprentissage du chinois, des mathématiques et de l'anglais à partir du CE2.
Ah oui.
Alors lui, le collège dure 3 ans, avec un examen d'entrée au lycée final. Et puis après, le lycée dure aussi 3 ans, avec des orientations possibles en enseignement général ou professionnel. L'objectif étant de préparer le Guakao, l'examen national d'entrée à l'université, qui propose un parcours similaire aux universités européennes, en fait.
Donc, c'est assez superposable avec ce qui se passe
chez nous. Un peu, finalement, quand on regarde.
Et est-ce que la scolarité est gratuite ?
Non. La scolarité en Chine n'est pas totalement
gratuite.
On
pourrait le penser, quand même.
Oui, mais pas totalement. Même si l'État, en fait, garantit l'enseignement de base gratuit pour tous, jusqu'au lycée. Il n'y a pas de frais de scolarité, mais les parents doivent payer les uniformes, la plupart des fournitures scolaires, la cantine, les transports, les activités extrascolaires. Donc, tout de même,
ces
dépenses peuvent représenter une part importante du budget familial. À noter que depuis peu, les cours privés ont été interdits pour lutter contre les inégalités.
Ah, ça, c'est...
Oui. C'est... Voilà, on va en reparler d'ailleurs.
Tu vas en reparler.
C'est ça, le lycée, comme les universités sont payante, en moyenne de 2000 à 5000 euros par an tout de même.
C'est beaucoup, oui.
Bah, je pense que pour certains, ça doit être compliqué, oui.
Oui, le salaire moyen chinois, il n'est pas très très élevé.
Et beaucoup plus pour des universités prestigieuses, vous l'imaginez bien.
Et en Corée du Sud ?
Alors, passons en Corée du Sud. Le calendrier scolaire, il y est différent. L'année scolaire commence en mars, elle, et se termine en février de l'année suivante. Il y a deux semestres. Le premier semestre de mars à juillet, suivi d'un mois de vacances d'été. Et le deuxième semestre, d'août à janvier-février, avec un mois de vacances pour les fêtes de fin d'année et le nouvel an lunaire.
Oui, c'est ça, les fêtes de fin d'année sont fêtées en Corée.
C'est ça. Selon les écoles, il peut y avoir des vacances aussi pour Chouessoc, la fête des récoltes, soit au total environ 2 mois et demi de vacances par an.
Donc un mois de moins que
quand
la
même,
Chine.
Il y a un mois de moins, oui. Mm. Pour la rentrée, il y a une cérémonie, bon, dans le gymnase de la, ou avec la cour, avec un discours, enfin dans la cour d'école, hein, ou avec un discours du chef d'établissement, la remise des emplois du temps, la présentation des enseignants, enfin c'est aussi un peu protocolaire. Tout oui. au long de la scolarité, presque dès la maternelle, l'accent est mis sur la réussite en vue de l'examen très sélectif donc dont on a déjà parlé, le Sunuyung, viens-moi.
Oui, Sunung.
Sunung, voilà, oui. Je suis toujours aussi doué. Hein. L'équivalent
non,
du baccalauréat.
Je te rassure.
qui permet, en fait,
oui,
d'entrer à
le
l'université.
Le pays s'arrête. Hein,
mais voilà, on avait déjà
jour.
Fait l'émission, on en oui. avait parlé avec ça.
Le pays s'arrête le jour
ça.
Du Sunung.
C'est très important. Les journées sont longues aussi et chargées là-bas. Elles sont souvent aussi prolongées jusqu'à 22 heures par des cours privés.
Alors, concernant le sport et la gratuité, c'est comme en Chine, Didier ?
Non.
En Corée ?
Non. Le sport y est davantage secondaire. Bah, en fait, sont officiellement prévus 2 à 3 cours de sport d'une heure par semaine. Les Coréens ont une vision plus dilettante en fait, du sport, qu'ils voient important pour la santé, certes, mais secondaire pour les études.
Oui.
Quant à la gratuité, bah, elle existe vraiment jusqu'à l'université depuis 2021.
Ah oui, c'est récent, mais elle existe vraiment.
Elle existe vraiment. Les parents ont à payer en plus bon, les uniformes, les fournitures scolaires, la cantine, les transports tout de même. Mais pour l'université, il faut compter par contre en moyenne entre 2500 et 7000 euros par an.
Mmh. C'est cher.
Tout de même. Mais ce qui coûte le plus cher, en fait, ce sont, ce que je disais tout à l'heure, les cours privés, devenus indispensables pour réussir, ce qui crée beaucoup d'inégalités, justement, sociales, car bah, c'est pas abordable pour tout le monde, et puis ça met pas tout le monde sur un pied d'égalité.
C'est le problème.
Ça, oui, puis 22 heures, tu te rends compte ?
Oui, oui,
c'est,
oui.
C'est fou,
il paraît que les enfants coréens.
Quoi.
Ont des gros problèmes de sommeil.
Je veux bien le croire.
On apprend l'anglais dès la maternelle, etc. Bon, et tu nous parleras du Japon la prochaine fois.
Eh bien, voilà, parce que comme c'est Asiologie, ça va toujours très vite. Et
oui,
là, on n'aurait pas eu le temps de faire le Japon. Donc, un rendez-vous pour une prochaine fois pour le Japon.
D'accord, Didier. Rendez-vous est pris.
C'est ça.
Bon, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Jeudi à 12h, rediffusé samedi à 9h30, mercredi à 13h. Toujours sur Radio Alpa,
voilà.
107.3.
Vous ne pouvez pas nous louper.
On ne peut pas nous louper. Et puis, on a une page Facebook aussi. On
Ça
aimerait
marche.
Bien vos retours.
Oui, tout à fait. Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne
Paris.
Semaine.